Bonjour et bienvenue dans ce débat entre deux tours des élections législatives, débat sur la première circonscription des Hautes-Alpes. À mes côtés, Anna Fréjus d'Alpes Midi, bonjour Anna.
Bonjour.
Et Fabrice Margaillan, directeur du Dauphiné Libéré dans les Hautes-Alpes. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Vous m'accompagnerez donc pour ce débat avec des candidats en face à face qui auraient pu être trois. Aujourd'hui, ils ne sont que deux puisque Pascal Boyer de la majorité présidentielle a décidé de se retirer. On va rappeler les résultats de ce premier tour des élections législatives sur cette première circonscription des Hautes-Alpes. Jérôme Sainte-Marie du Rassemblement National est arrivé en tête avec 38,24% des suffrages exprimés. Bonjour Monsieur Sainte-Marie.
Bonjour à vous.
Et Marie-Josée Allemand face à vous. Deuxième position de ces législatives, 30,47% des suffrages exprimés. Bonjour.
Bonjour.
Ce débat qui se déroule donc sur Alpes 1 avec le Dauphiné Libéré et Alpes et Midi, avec bien sûr le respect du temps de parole. Et au tirage au sort, c'est Jérôme Sainte-Marie qui va commencer à répondre à nos questions. Une question d'abord, Monsieur Sainte-Marie, vous êtes politologue, vous êtes sondeur, vous êtes formateur des cadres du Rassemblement National. Ça on le sait, on vous a beaucoup vu sur les plateaux parisiens. Au Alpes 1, un peu moins, sauf ces dernières semaines.
Non, sincèrement, cette rhétorique est totalement vaine. Il se trouve que tout simplement j'habite dans les Hautes-Alpes depuis de nombreuses années, à Saint-André-de-Rosan pour être précis, et que par ailleurs je prends ma voiture de temps en temps, environ une fois par semaine, pour passer deux ou trois jours à Paris. Je peux vous donner mon trajet si ça vous intéresse. Au fond, c'est à peu près le mode de vie d'un député, si vous voulez, d'être dans là où il habite et par ailleurs d'aller à Paris. J'ai une activité professionnelle qui, de fait, m'attire au-delà du département. Mais je ne vais pas multiplier les... Enfin, je le fais depuis deux semaines parce que c'est le seul angle d'attaque qui a été trouvé par mes concurrents. Il est très vain, il est erroné. Peut-être qu'actuellement, mes beaux-parents qui vivent en Brun nous écoutent, mon épouse qui vit à Saint-Rémy-de-Rosan nous écoute. Que dire de plus ? Ce procès en origine, en quelque sorte, me paraît particulièrement déplacé. J'habite dans les Hautes-Alpes, je connais les Hautes-Alpes depuis maintenant 58 ans, c'est-à-dire mon âge, pour des raisons diverses, et j'entends bien défendre les Hautes-Alpes, et notamment la première circonscription, de manière efficace, auprès des prochains pouvoirs publics, c'est-à-dire du gouvernement d'Union nationale, de Jordan Bardella. C'est la seule chose qui me paraisse véritablement importante.
Marie-Josée Allemand, vous faites un procès qui n'a pas lieu d'être.
C'est pas un procès, c'est un constat. Lorsque on est au Alpin, quand on habite dans les Hautes-Alpes, on vit dans les Hautes-Alpes, on travaille dans les Hautes-Alpes, c'est mon cas depuis... J'ai fait ma carrière professionnelle dans les Hautes-Alpes, si on peut dire comme ça. Écoutez, je pense que c'est essentiel de connaître son territoire par cœur. C'est mon cas. Et moi, je maintiens que nous n'avons pas besoin d'un vacancier à l'Assemblée nationale.
Oui, les termes sont particulièrement, à la limite insultants, comme... j'ai pu voir sur les affichettes, enfin ces méthodes de campagne ne sont pas du tout les nôtres. Moi je suis dans le plus grand respect des personnes, de mes concurrents notamment. C'est un usage républicain qui me paraît essentiel pour que justement on puisse sereinement s'affronter sur des projets. Donc j'habite dans les Hautes-Alpes, la question n'est pas là, et encore une fois je pourrais les défendre avec efficacité.
Une question, Marie-Josée Allemand, on sait qu'on va se diriger vers un gouvernement de cohabitation, ce sera aussi une gauche de cohabitation au final ?
Alors ce sera une gauche responsable, ce sera... Oui, je sais que ça vous fait rire.
C'est bon de l'entendre.
Voilà. Vous pouvez rire tant que vous pouvez vous moquer, il n'y a pas de problème, on en a l'habitude.
On va parler de votre programme si vous le voulez bien. Alors, si c'est véritablement responsable, notamment en matière fiscale.
Je pense que vous allez pouvoir me laisser répondre, je ne suis pas votre élève, il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas mon professeur non plus. Donc moi ce que je vous dis...
Ça a déjà été fait ça.
Oui, ça a déjà été fait, mais c'est bon de le rappeler, d'avoir un peu quelques rappels en mémoire. Moi, ce que je veux dire, c'est que je représenterai les Hautes-Alpes, les Alpes vraies, puisque c'est...
Et les Insoumis.
Je représenterai les Hautes-Alpes, tous les Hauts-Alpins, qu'ils soient... on a besoin aujourd'hui de sérénité. On n'a pas besoin que les débats nationaux qui n'ont rien à voir avec notre département viennent de manière affligeante s'incruster pour diviser les Hauts-Alpins. Nous, les Hauts-Alpins, en eux, ce sont des montagnards, ce sont des républicains, et ce sont des personnes qui n'ont pas besoin qu'on vienne leur asséner en permanence cette division des peuples, cette espèce de peur qu'on entend sur les chaînes nationales. Ici, il fait bon vivre dans les Hautes-Alpes. Nous aidons nos concitoyens, et ce que je veux vous répondre, c'est que aujourd'hui nous devons prendre en responsabilité le fait que nous ne souhaitons pas, nous ne voulons pas être défendus au niveau national par le Rassemblement national.
Jérôme Sainte-Marie, une réponse très rapide quant à cette question, 15 secondes, pas plus.
Je rappelle tout simplement qu'il s'agit d'une élection législative, il s'agit du choix d'un député, il s'agit du choix d'une majorité à l'Assemblée nationale, il s'agit du choix d'un gouvernement. Et effectivement, je pense que si Madame Allemand parle sans cesse de mes supposées origines ou bien de l'endroit où je dois habiter, etc., c'est tout simplement parce qu'elle est embarrassée. Elle est embarrassée par ses alliés, elle est embarrassée par la France insoumise, et surtout elle est embarrassée par son projet. Tout le temps où on parle comme s'il s'agissait d'une élection pour l'exécutif d'une collectivité territoriale, eh bien ça permet à Madame Allemand de ne pas parler du projet qu'elle soutient et des gens qui la soutiennent.
Parlons donc des projets, notamment l'une des préoccupations des Français et des Alpins, c'est le pouvoir d'achat. Sur la première circonscription des Hautes-Alpes, selon l'INSEE, 14,2% de la population vit sous le seuil de la pauvreté, contre 14,5% en France métropolitaine. On veut mieux vivre, oui, cette question, mais comment ? Tout d'abord, le Front Populaire, vous proposez d'augmenter les salaires par le passage du SMIC à 1600 euros net, passer également l'AAH, l'allocation adulte handicapé, au niveau du SMIC, donc 1600 euros net également. Augmenter le point d'indice des fonctionnaires de 10%, prendre en charge par l'État la cantine, le transport scolaire, le périscolaire, augmenter de 10% les aides au logement. C'est un chèque en blanc que vous allez signer pour un pays qui est déjà sous le coup, on le rappelle, d'une procédure de la Commission européenne pour déficit public excessif, Marie-Josée Allemand.
Alors, Je vous remercie d'avoir cité nos propositions. Elles sont réelles, elles sont sérieuses. Je rappelle simplement que ce programme a été chiffré. Ce programme a en face des recettes, dont notamment l'ISF. Ce n'est pas rien. L'ISF, en 2017, c'était 4 milliards d'euros qui rentraient dans les caisses de l'État. Monsieur Macron a fait un chèque en blanc. Un chèque en blanc à tous nos riches, aux 5% de riches que compose notre pays. Et aujourd'hui,
Madame Boyer appréciera sans doute. Hein.
Mais écoutez, Madame Boyer, elle appréciera. Je pense qu'elle en est parfaitement consciente aussi. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est rétablir la première des choses, c'est rétablir l'ISF. C'est 15 milliards d'euros dans les caisses de l'État par an.
C'est avec l'ISF que vous pourrez financer toutes ces propositions.
C'est une partie du financement de nos propositions.
Jérôme Sainte-Marie.
Ah mais effectivement, quand on regarde non pas les tracts distribués par les supporters de Madame Allemand, qui n'en parle pas, c'est curieux de cacher une partie aussi essentielle de son programme aux Alpins. Mais quand on regarde le programme, ce que je suis allé faire, du nouveau Front Populaire, eh bien il y a des chiffres. Et comment est-ce qu'on finance effectivement ces aides multiples, ces subventions, ces augmentations? Eh bien c'est tout simplement par la hausse des impôts. Mais vous dites l'ISF, 15 milliards de plus peut-être. Sûrement. Mais moi ce que j'ai vu dans votre programme, c'est que les recettes sont estimées par la hausse des impôts à 150 milliards supplémentaires. 150 milliards, vous savez, c'est pas donc 10 fois plus. Bien sûr, ce n'est pas que vous parlez de l'ISF pour faire oublier tout le reste de votre fiscalité. Et ce qui m'intéresse le plus en réalité, c'est pas ça. C'est le fait que vous ne parlez jamais de production. Vous ne parlez jamais de création de richesses dans votre programme. La seule fois où vous en parlez, à ma connaissance, c'est quand vous parlez de la réindustrialisation au niveau européen et non pas au niveau français. C'est-à-dire que si on déplace une usine pour aller l'installer ou une activité économique dans un autre pays européen, pour vous, c'est indifférent. Donc, c'est assez troublant. Il n'y a jamais un discours sur la production.
Quel est le discours du Rassemblement national sur la production de richesses ?
Le Rassemblement national n'est pas le mieux disant, si vous voulez, par rapport au Nouveau Front Populaire. C'est impossible de l'être, d'ailleurs, en termes d'augmentation autoritaire des salaires, en termes de subventions multiples, de chèques, etc. Et sincèrement, personne ne peut, ni d'ailleurs n'a spécialement envie, de lutter par rapport à cette forme de démagogie, il faut bien le dire. Nous, simplement, c'est tout ce qui concerne la production. Alors, des mesures d'urgence... Certes, ça a été la baisse de la TVA sur toutes les énergies.
Impossible.
De 20 à 5%.
Impossible pour les carburants. Impossible. Vous irez contre l'Europe, ce sera illégal.
Vous savez, la politique, je ne sais plus qui, c'est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire.
Mais comment vous le faites ?
Et donc, à ce moment-là, vous aurez effectivement... Nous avons un État, il s'appelle la France. Et cet État, et c'est pour ça d'ailleurs, si d'ailleurs les choses étaient impossibles, pourquoi se présenter à la députation ?
Donc effectivement, comment vous le faites ?
Tout simplement, c'est une décision budgétaire qui va être prise lors de la... Pas budgétaire, c'est une décision qui va être prise lors de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale qui sera convoquée après notre victoire en juillet-août. Et à ce moment-là, effectivement, il y aura des mesures qui seront prises pour baisser l'énergie de 20 à 5,5%. C'est extrêmement important pour les Hauts-Alpins puisqu'on sait qu'ici, la voiture n'est pas seulement une liberté, c'est aussi une nécessité, voire une contrainte, et que les déplacements sont très important dans une circonscription
mais
comme la nôtre.
Et
enfin,
vous
mais
ne pourrez
bien
pas
sûr qu'on pourra, madame. Qu'est-ce qui vous autorise à le dire ?
Directive de 2006, révisée en 2022, qui prévoit que pour harmoniser la fiscalité au sein de l'Europe, le taux de TVA normal soit au minimum de 15%. Vous pourrez le baisser, mais à 15% de manière dérogatoire.
On pourra très bien
le
faire. Vous savez, la France compte en Europe. On rentre dans une négociation, effectivement, et dans une forme de rapport de force qui nous permettra de l'obtenir. Si effectivement l'Europe consiste à imposer une TVA supplémentaire, eh bien on fera en sorte que ce ne soit pas le cas. C'est tout simplement ça. Vous savez, c'est pas la politique française, c'est ne pas se conformer à ce que déclare la Commission européenne. La politique française, c'est précisément d'imposer une négociation en préservant nos intérêts. Il s'agit d'une négociation responsable, protégée par exemple des aspects très positifs, parfois, notamment en matière... Je sais que le département reçoit pas mal d'aides, en fait, et les agriculteurs en reçoivent également. Et eh bien ceci sera préservé, mais au niveau national, je vous assure que si on veut baisser la TVA sur les énergies, on pourra le faire.
Marie-Josée Allemand ?
Oui, c'est à l'image du Rassemblement national, c'est-à-dire que c'est très plus qu'utopique, parce qu'aujourd'hui, monsieur, vous n'avez pas la majorité au niveau de l'Europe, vous n'avez pas de majorité, vous ne pourrez pas faire ce que vous dites, tout simplement. Nous, ce qu'on propose, c'est des choses concrètes, c'est par exemple sur l'énergie. On n'a pas besoin d'aller à l'Europe pour demander l'autorisation. Nous, ce qu'on veut faire, c'est abolir la taxe Macron des 10% sur l'énergie. Et surtout, aujourd'hui, il y a l'augmentation du prix du gaz. Je sais, ça vous a peut-être échappé, mais il y a une augmentation qui est prévue aujourd'hui même, 1er juillet, sur le gaz. Donc nous, cette augmentation, on va l'enlever. Parce qu'aujourd'hui, c'est ramener du pouvoir d'achat immédiatement aux Françaises et aux Français. Sur la deuxième, une de nos mesures aussi, c'est de bloquer le prix des produits de première nécessité.
Combien de produits de première nécessité ?
Les produits de première nécessité, combien ? Peu importe. Ce qui est intéressant, c'est les produits de première nécessité. La farine, les produits d'hygiène, tous ces produits dont les Français ont besoin au quotidien.
C'est aussi une proposition du Rassemblement national, Jérôme Sainte-Marie.
Oui, on fait attention à ça, parce que le blocage des prix, c'est un véritable problème, c'est que ça peut dissuader la production. Encore une fois, on s'en sortira en France que si on relance la production. Le vrai problème, c'est que nous sommes dans une situation plus générale de désindustrialisation, et avec un taux de croissance très faible. Encore une fois, d'ailleurs, vous voyez bien qu'on est en train de discuter de l'activité de l'Assemblée nationale et des lois qu'on peut prendre pour relancer cette production. Pour cela, il faut que le travail paye et il faut effectivement laisser les gens, les entrepreneurs, très nombreux d'ailleurs, nous avons un tissu dans les Hautes-Alpes et notamment la première circonscription dense de TPE-PME, il faut tout faire pour encourager cette activité. C'est pour ça d'ailleurs que nous ne sommes pas favorables à cette augmentation autoritaire du SMIC, parce qu'il faut avant tout protéger cette activité française qui a été tellement affaiblie depuis des décennies.
Alors passons à un autre sujet. Un sujet qui a fait énormément débat, c'est le sujet des retraites. Le Rassemblement national, vous promettiez la retraite à 60 ans. Au final, les européennes sont passées, cette promesse a volé. Désormais, dans votre programme, on peut partir à la retraite à, et vous m'arrêterez si je dis faux, 62 ans. à taux plein si on a totalisé 42 annuités. Ce sera 40 annuités pour ceux qui ont travaillé avant 20 ans. Jordan Bardella a affirmé sa volonté de mettre en place un système de retraite progressif qui inciterait les jeunes à entrer de manière précoce sur le marché du travail. Sauf qu'en 2020, 49% des 25-34 ans étaient diplômés du supérieur. Ce qui veut dire qu'on fait de plus en plus d'études supérieures. Comment on peut entrer dans le marché du travail avant 20 ans ?
Ah, c'est bizarre que vous me posiez cette question. Ça présente, comment dirais-je, un sentiment de classe qui me déconcerte.
Absolument pas. C'est aujourd'hui, les employeurs demandent des diplômes.
En serais-je surpris ? Pas forcément. Vous avez énormément de gens dans la formation technique, des gens qui commencent avant 20 ans. Bien sûr. Ce n'est peut-être pas ceux que vous fréquentez, mais en tout cas, ils existent. Et vous avez effectivement toute cette jeunesse laborieuse qui commence très tôt.
Laborieuse.
Qui d'ailleurs... Oui, pourquoi c'est le travail, le labor, c'est un mot qui est banni désormais à gauche ?
Non, c'est le terme qui me gêne, mais laborieux.
Ah, c'est laborieux, votre... Oui, non, mais laborieux. Ça ne m'étonne pas, vu qu'évidemment, oui. C'est la politique de la subvention et le refus de l'encouragement du travail. Mais laborieux, c'est la racine, c'est travail, hein, c'est le labor en anglais. Le travail, c'est positif, mais ça m'étonne que ça choque à gauche, encore une fois. Est-ce que ça m'étonne vraiment ? Malheureusement, pas tant que ça. Mais pour vous répondre, tout simplement, vous avez effectivement beaucoup de gens qui commencent à travailler, notamment dans le département, avant 20 ans. Comment faire pour... Vous les ignoriez, c'est incroyable. C'est incroyable. Et effectivement, vous avez toute cette population qui est souvent invisibilisée dans les médias ou dans le discours public, mais qui s'est réveillée à nous, notamment lors du mouvement des Gilets jaunes, où vous avez effectivement les gens qui travaillent à l'école hôtelière, etc., qui, en alternance ou à temps plein, commencent à travailler à 20 ans. Eh bien, nous parlons à cette jeunesse-là. C'est peut-être parce qu'on a cette préoccupation disparue dans le reste de la sphère publique qu'aujourd'hui, 54% des ouvriers votent aux européennes, donc là, à la proportionnelle, vous vous rendez compte, 54% votent pour le Rassemblement National. Et quand vous prenez la présidentielle, vous avez une majorité écrasante des employés et des ouvriers, la moitié de la population active, qui choisissent le Rassemblement National, Marine Le Pen, Jordan Bardella, et qui ont complètement délaissé la gauche, qui ne s'intéresse visiblement plus à eux.
Marie-Josée Allemand, par rapport au nouveau Front Populaire, droit à la retraite à 60 ans avec 43 années de cotisation, sauf que ça fait frémir plus d'un. Je vais prendre le voisin des Alpes de Haute-Provence, Didier Long, président de l'Union des entreprises dans les Alpes de Haute-Provence, qui expliquait la semaine dernière que cette réforme voulue par le nouveau Front Populaire coûterait des dizaines de milliards d'euros, donc augmenterait les déficits et réduirait les pensions sur plusieurs générations. L'UDE, ce sont des petits patrons qu'il faut aujourd'hui rassurer.
Vous savez, sur la retraite, nous avons eu des millions de gens dans la rue qui se sont mobilisés pour refuser le passage en force de cette réforme. Cette réforme a été appliquée avec un 49-3. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de débat à l'Assemblée nationale. On n'a pas pu entendre la voix des députés des circonscriptions pour expliquer la problématique qu'ils rencontraient dans leur département et dans leur circonscription. Nous, ce que nous voulons faire, c'est abroger immédiatement, dans les 10 jours, ça vous a pas échappé, nous avons un programme qui est de 140 propositions où nous sommes tous d'accord, l'ensemble des partis d'accord du Front Populaire sur ces 140 propositions.
Mais il faut le financer.
Il est financé, vous l'avez vu et tout le monde, visiblement, tout le monde l'a très bien lu. Moi, je suis ravie que tout le monde ait très bien lu notre programme. Ce programme est financé.
Toujours par l'ISF ?
Non, mais attendez. L'ISF est un exemple. Il y en a d'autres. Par exemple, on supprime les cadeaux faits aux entreprises du CAC 40 et on les rebascule sur les petites et moyennes entreprises. C'est un basculement de ce cadeau qu'a fait M. Macron aux entreprises du CAC 40 et aux actionnaires. Ça fait aussi du financement. Aujourd'hui, moi, ce que je veux parler, moi, j'aimerais parler des Hautes-Alpes, parler de notre département, parler de notre circonscription.
Mais là, je vous parle justement de l'UDE 04. Alors certes, ce n'est pas les Hautes-Alpes, mais je pense que si on posait la question à l'UPE 05, ce serait également pareil. Des patrons qu'on a pu rencontrer sont inquiets par rapport à cette réforme.
Écoutez, ils sont inquiets par rapport à cette réforme et je l'entends et nous les rassurerons de manière la plus claire possible. Par contre, moi, ce que je n'entends pas, c'est le programme du Rassemblement national qui change. On est passé d'une retraite à 60 ans, puis finalement, M. Bardella a annoncé 66, peut-être 67. En fait, on n'en sait rien.
Pas du tout.
Mais si, la semaine dernière, c'est ce qu'il a annoncé. Je ne vous ai pas coupé, donc soyez polis. Donc, il n'y a pas de sujet là-dessus. Il n'y a pas de sujet. Nous abrogerons cette réforme et nous la remettrons en discussion à l'Assemblée nationale. On doit écouter les parlementaires.
Le débat sur la première circonscription des Hautes-Alpes, débat entre Jérôme Sainte-Marie pour le Rassemblement National et Marie-Josée Allemand pour le Nouveau Front Populaire qui se poursuit sur Alpe 1 avec le Dauphiné Libéré et Alpes et Midi. On marque une courte pause et on revient dans quelques instants. À tout de suite.